Nous sommes Sanhedrin Daf Tzadikibet. On est combien de lignes avant la fin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nous sommes 12e ligne. 12e ligne. Amar Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, il a dit: Kol she'einu meshayer pat al shulchano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oui, 12e ligne. Amar Rabbi Elazar, Kol she'einu meshayer pat al shulchano, chacun qui ne laisse pas du pain sur sa table après qu'il a terminé de manger, Eino roa siman baracha le'olam, il ne verra jamais une bénédiction. On a expliqué hier le phénomène de laisser le pain sur la table après le manger. Selon Rashi, c'est parce que le verset il dit achalnu Savano votarno. Nous avons mangé, nous sommes rassasiés et nous en laissons encore. Ça montre la bracha qu'Akadosh Baruch Hu a donnée. Ça veut dire qu'on est heureux qu'Akadosh Baruch Hu nous donne même plus que nous avons besoin. Alors faire le Birkat Hamazon dans ces conditions a plus de valeur. Quelqu'un qui a invité chez une autre personne, comme on dit la Gemara, il y a deux catégories des invités. Il y a un invité qui rouspète, oh, c'est pas grand chose. Et l'autre qui remercie, c'est formidable ce que vous faites pour moi. Alors ça, c'est le Oreach Tov et le Oreach Ra. Ainsi, c'est vis-à-vis d'Hachem. Quelqu'un qui mange, il est rassasié, il reste encore en plus et remercie Hachem pour son chesed. Et un autre, il rouspète. Alors, le fait de laisser sur la table, ça montre la bracha. Et l'autre pshat, il laisse le pain pour que si jamais un pauvre y vient, il y a toujours quoi à manger, il a toujours quoi donner à manger. Je n'ai marre car le texte, il dit, En sarit le ochlo, il ne reste rien pour manger, alken lo yachil tuvo, eh bien, la bonté ne va non plus arriver. La Gemara pose une question, donc tu dis qu'il faut faire Birkat Hamazon. Quand il y a du pain sur la table, va ma Rabbi Lazar, pourtant Rabbi Lazar, elle dit, Kol mesher petitim al shulchano, qu'il ouvait d'ovot et azara. Quelqu'un qui laisse du pain sur sa table après le manger, c'est comme s'il fait l'idolâtrie. Je n'ai marre, car le texte, il dit, ha'ochim gad shul, le gad shulchan, ceux qui ochim, qui vont dresser le gad. Gad, c'est une avodazara, au Proche-Orient. Ceux qui dressent Shulchan, ils dressent une table pour Gad, pour cet Avodazara qui s'appelle Gad. Va amemalim, amemalim, le meni. C'est où est ce verset? Va amemalim, lamni, mimsach, lamni, meni. Meni, c'est une idole. Mani, ça c'était en, il y avait le manichéisme. Il y avait en Perse, au IIIe siècle avant, il y avait Mani, c'était un philosophe. On dit le manichéisme, c'est le dieu de la lumière et le dieu de l'obscurité. C'est ça qu'Al Rambam il appelle l'idéologie du double, de la double divinité. L'essor du juif, c'est l'essor de Yiddishkeit, c'est Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et que même le mal qui existe au monde, et même les forces du mal qui existent, et même les erreurs, Akadosh Baruch Hu, il les laisse faire. Et c'est lui le chef en vérité de tout. Et il a un calcul comment il gère le monde, même avec le mal. Et le manichéisme, il est basé sur le principe qu'il y a une lutte entre l'obscurité et la lumière, mais ce sont deux forces, ce sont deux divinités. Je ne sais pas si ça c'est ce mani, en tout cas ça ne change pas. Il y a un avodazara, et la coutume était qu'on dresse une table avec pleine de nourriture pour ce dieu. Et c'est comme ça, après le manger, on préparait cette table. Alors donc, ce n'est pas bien de dresser une table pour avodazara. Donc, pourquoi tu dis qu'il faut laisser du pain? L'okashia, c'est pas une question. Hadi ikeshleime bahadeh, bahadeh, yadele keshleime bahadeh. L'interdiction, c'est d'apporter un pain entier. Rashi dit, Sheken osin shemanichin shulchan aroch b'machal u'mishtel shem otah avodazara shekorin gad. Mumalim kosot shel mirkachim nesuchim l'avodazara sheshma mani. Une avodazara qui s'appelle mani. Donc on apporte du pain, on a fini de manger et alors on dresse une table, une jolie table pour l'avodazara, comme si l'avodazara avait mangé. Ça, c'est l'avodazara. On va chercher les Chinois, si je ne me trompe pas, je ne sais pas, je suis pas baki, mais il me semble que les Chinois, dans leurs magasins, etc., ils ont comme ça une table avec de la nourriture et tout, c'est pour leur Dieu. Je ne sais pas si c'est le chinois, si c'est le hindouisme, en vérité, je ne m'y connais pas. C'est les magasins chinois ou les hindouistes ou les chinois, comme ça. Alors, qui l'aurait d'abord des Zara? Alors, non. Radi que je l'ai abadé, adele que je l'ai abadé. Va me rabbe Lazare, continue. Rabbe Lazare, il dit, Kola machlif bidibouro, chacun qui change sa parole, qui ment, un menteur. Machlif bedibouro, ça veut dire usurpation usurpation d'identité. Il se fait passer pour quelqu'un d'autre avec sa parole machlif. Ça peut être en principe n'importe quel mensonge, mais ici c'est dans le sens il se fait passer pour quelqu'un d'autre. Quand la machlif bedibouro, qu'il ouvre d'abord des aras, c'est comme s'il fait de l'idolâtrie. Ici, il est marqué. Vaïti beinaf kim tateya, Yaakov Avinu. Il se déguisait en Esav pour entrer chez son père. Il a dit à sa mère, moi, j'ai peur. Si mon père, il va remarquer que quoi que je suis Esav, je suis Yaakov et je ne suis pas Esav. Et moi, je vais dire, je suis Esav. Vaïti beinaf, je serai à ses yeux kim tateya comme un homme qui fait l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que j'ai pris la place de mon frère. K'tiv hatam, il est marqué Hevel Heima, Maase Tatouim. L'idolâtrie, c'est nul, Maase Tatouim. C'est-à-dire, l'idolâtrie, dans le fond, c'est une usurpation d'identité. C'est que Veyachol, un idole, un Bouddha, un Krishna, tous ces bidules, ils prennent la place des dieux. Ils veulent prendre la place des dieux, c'est-à-dire les humains, ils donnent à cette statue l'identité de Dieu. Voilà mon Dieu, voilà mon protecteur. Et ça, c'est usurpation d'identité. Et ça, c'est si un homme, il le fait sur son frère, comme Yaakov. Tu fais passer pour son frère, mais tu n'es pas le frère. Je dis, je suis le frère. Ça, c'est quelque chose de terrible dans le fond. C'est quelque chose d'absolument terrible. C'est comme l'avodah zarah. Ça, c'est tout l'avodah zarah, c'est de se faire passer pour Dieu. Rabbi Lazar, il a dit, Kolamistakel be'erva, chacun qui observe une immoralité, soit sur soi-même, soit sur des autres, kashtoninéret, il perd sa force, il devient faible. Kashto, c'est l'arc. L'arc, c'est un homme, il est guerrier. Avec l'arc, on gagne ses guerres. Eh bien, il devient faible. Bon, c'est aussi des allusions chez Neymar. Erea et Or Kashtecha. Vama Rabbe Lazar. Et Rabbe Lazar, il dit, Le Olam toujours heve kabel ve kayam. Sois obscur et tu vivras. Ça veut dire quoi, sois obscur? Modeste. C'est-à-dire, mets-toi à l'ombre. Tant que tu peux rester à l'ombre, tu peux te mettre à l'ombre, Kayam, eh ben, tu resteras, tu vivras. On ne te fera pas de mal. Ce qui est à l'ombre, on ne le remarque pas, on ne lui fait pas de mal. Amar Rabbi Zeira, il a dit, Afanana Metenina, c'est une Mishnah, mais faut rechette. Ce n'est pas un Hidouche de Rabbi Lazar, on peut le déduire d'une Mishnah. Bait Afel, une maison obscure. En potrin lo chalonot, on va pas ouvrir des fenêtres, lirot nigo, pour voir sa lèpre. C'est quoi ça? Ça, c'est pas une agada, c'est une halakha, mais la Gemara déduit de ça une agada. Ça veut dire quoi? Une maison qui est lépreuse. C'est quoi une maison lépreuse? Marqué en Chumash, un homme, il a une maison. fabriqués par des pierres, du plâtre, etc. Et après, qu'est-ce qu'il remarque? Qu'il y a des espèces de couleurs bizarres sur le mur. Rougeâtre, verdâtre, il y a un phénomène, comme la Torah nous raconte, en Parshat Metsora, c'est Tzarat Batim. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appeler le Kohen. Et le Kohen, il vient dans la maison, il inspecte. Il voit ses couleurs, les grandeurs, etc. Il y a toutes sortes d'halakhot. Il y a un Meseret qui s'appelle Meseret Negaim, où tout est analysé, tous les psukim. Et après, le Kohen, il déclare la maison est pure ou la maison est impure. Avant de déclarer que la maison est impure, il marque dans le chumash qu'il faut vider la maison, faire sortir tout dans la rue. Et après, le Kohen, il déclare impur, on ferme la maison, on ne peut plus rentrer dedans. Ceux qui rentrent dedans, ils deviennent impurs. Et la maison, elle est pour 7 jours exclue. Après 7 jours, le Kohen revient et il regarde. C'est devenu pire, c'est resté ou c'est moins grave. Des fois, ils l'ont fermé encore une semaine, etc. Ce sont les halakhot de Nigé Batim. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait si c'est une maison où il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de fenêtre? Quelqu'un a une cave, il a un hangar, il n'a pas de fenêtre. Et le Kohen, il arrive et il dit, attendez, je ne vois pas bien. Allumez-moi une bougie, il faut que je vois, inspecte la couleur. Le dîner, il est non. On n'allume pas de bougie. Lorsque la Torah nous dit, Kenega nireli babait. Le Kohen, il dit, moi, mes yeux voient ces couleurs. Si ses yeux ne voient pas, mais grâce à une bougie, eh ben, on peut pas déclarer impur. Alors, le Kohen, il dit, d'accord, il me faut la lumière du jour. Alors, enlevez quelques pierres. Enlevez-moi au moins une pierre. Faites une fenêtre pour que la lumière du jour entre. Après, je peux inspecter. On dit non. La Mishnah nous dit non. Bait afel, une chambre obscure. Une poterine lochalonot. On ne va pas ouvrir une fenêtre, l'irot nigo, pour que le Kohen il peut voir la lèpre. C'est obscur, on ne va pas. Cette maison échappe à l'impureté. Le Kohen ne va jamais déclarer impur. Ça, c'est la halakha. Et maintenant, de cette halakha, Rabbi Zeira, il déduit un moussar haskel. Tu vois, une maison qui n'est pas éclairée. Donc, Rabbi Zeira, il déduit de la même façon que la halakha dit qu'une maison qui est obscure, qu'on ne voit pas, on ne voit pas ses défauts. Ainsi, un homme qui a un défaut, les gens peuvent le remarquer s'ils se mettent à la lumière. Un homme qui monte en scène, un homme que les journalistes consultent, il est à la télé, il est en public. Un homme public, les gens le regardent, ils se mettent à la lumière. S'il a un défaut, les gens remarquent son défaut et on va parler de lui. Et ça peut lui provoquer du mal. Les gens, ils voient ses faiblesses. Peut-être quelqu'un va lui faire du mal. Mais si tu es modeste, tu fais pas d'histoire, un homme comme tout le monde, tu te fais pas remarquer. Un homme qui vit sans se faire remarquer, sans se mettre à la lumière, les gens remarquent pas. Il peut avoir un défaut, il peut avoir 10 défauts. Les gens ne remarquent rien du tout et ils vivent tranquillement. C'est ça le moussar haskel de cette histoire. Evekabel vekayam. Mets-toi à l'ombre, vekayam, et tu vivras tranquillement. Ne fais pas d'histoire autour, ne fais pas de scandale, n'attire pas le regard sur toi. Amarabitabi, Amaraboji Oshaya, Maïdechtif, qu'est-ce que c'est ce qui est marqué dans le verset? Sheol veotzer racham, Sheol, la tombe, veotzer racham, et l'utérus, Eretz, la terre, L'osava ma'ayim, elle n'est jamais rassasiée de l'eau, ve'esh lo amrahon, et le feu ne dira pas richesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Un verset dans Michelet. Ça veut dire quoi? Sheol, c'est la tombe. La tombe, l'osava, elle n'est jamais rassasiée. Ve'otse rechem, et l'utérus, eretz, la terre, Lo sabamayim. Il n'y a jamais rassasié, la terre n'est jamais rassasiée de l'eau. Ça veut dire quoi, la terre n'est jamais rassasiée de l'eau? Il pleut, quand il pleut, l'eau rentre sous la terre, et après, les fruits peuvent pousser. Et s'il pleut beaucoup, alors l'eau va plus profond, jusqu'elle arrive à la nappe phréatique. Et il pleut encore, et bien la nappe phréatique, elle se remplit. Tu peux verser combien de l'eau tu veux, il y a toujours de la place. Maintenant, le verset, il dit comme ça. Sheol, la tombe, et l'utérus, et la terre, jamais ils sont rassasiés. Ils n'ont jamais assez. Alors, on dit dans la Gemara. V'chima inyan sheol etzel reichem. Pourquoi la Torah met la tombe à côté de l'utérus? Pourquoi on fait cette comparaison? L'Omar Lacha, pour te faire une allusion. Marechem, Machnis ou Motsi, comme l'utérus, on fait entrer dedans et on fait sortir. Ça veut dire la conception, la femme reçoit ce qu'elle reçoit, et après, ce qui sort, c'est un enfant. Afsheol, la tombe aussi est comme ça. Machnis ou Motsi, on fait entrer dans la tombe, on fera sortir de la tombe. Ça veut dire, c'est la résurrection des morts. L'homme, il meurt, on le met dans la tombe. Et après, il se réveille. Et la tombe fait sortir. Va'ala dvarim kal vachomer. Maintenant, il y a un kal vachomer. Uma rechem, shemachnissim bo bachashai, motzi memenu bekol ekolot. Si déjà l'utérus, on fait rentrer dedans, bachashai, en cachette, l'homme vit avec sa femme, personne n'est au courant. Motime ne me colle colotte, mais quand la femme met la couche, alors c'est du bruit. Elle fait du bruit. Oh là là, ça fait mal. Elle appelle le médecin, on appelle la sage-femme. Colle colotte, et après, toute la vie est au courant. Baruch Hashem, madame, elle a accouché. Sheol, shemachnissin bo bekolot. La tombe, quand on fait rentrer un homme dans la tombe, ça fait déjà beaucoup de bruit, tout le monde pleure. Et nous disons, je me dis, mais ne bécole colotte, à plus forte raison, quand il y aura triétimité, il y aura un grand bruit. Ça va remuer le ciel et la terre, le bruit pendant triétimité. Mais quand tu vas, l'homme rime en triétimité minatora. Voilà une réfutation de ceux qui disent qu'il n'y a pas de verset qui nous indique le triétimité. La Torah, elle a comparé la tombe, elle a comparé la tombe à l'utérus. L'utérus, on fait rentrer, on fait sortir. La tombe, on fait rentrer, on fait sortir. Et il va sortir avec beaucoup de bruit, ça va sortir. Tana de Be'eliaou, on a enseigné dans la Yeshiva de Eliaou. C'est quoi la Yeshiva de Eliaou? Soit que c'est un Rav qui s'appelait Rabbi Eliaou. Et la même Yeshiva, comme il y a Tana de Be'i Rabbi Ishmael, Tana de Be'i Rabbi, il y a beaucoup Tana de Be'i Be'i, c'est-à-dire la maison. Tana, on a enseigné de Be'i Rabbi Ishmael, de Bey Chizkia, dans la maison, dans la Yeshiva de Chizkia. Il y avait peut-être un Rav qui s'appelait Eliyahu. Soit Tana de Bey Eliyahu, c'est un enseignement qui vient d'Elianavi, peut-être. Tzadikim she'atid HaKadosh Baruch Hu l'achayotan, les tzadikim qui dans le futur doivent les faire vivre, enon chozrim l'afran. Eux, ils ne vont plus redevenir de la terre, ils ne vont plus mourir. Ça veut dire, on avait déjà dit à l'époque de Mashiach, on avait déjà vu, toujours, la mort existe toujours. Seulement, un homme qui meurt à 100 ans, il est mort jeune. Les gens, ils vont vivre 500 ans. Rambam m'explique, dans le Pirush Mishnayot, pourquoi à l'époque de Mashiach, les gens, ils vont vivre 500 ans normalement. C'est parce que le corps humain, en vérité, il peut vivre 500 ans sans problème. C'est aujourd'hui, nous sommes dans des conditions d'une souffrance, d'un stress. Il y a des guerres, il y a des maladies, il y a des manques de nourriture. Il y a toutes sortes de choses qui ont fait que la condition humaine est devenue, c'est très stressant et on agit, on vieillit plus vite. Il dit à l'époque de Mashiach, il n'y a pas de problème de parnassa, il n'y a pas de problème de guerre, il n'y a pas de problème de dispute, il n'y a pas de maladie. Alors, le corps humain, c'est naturellement, il vivra 500 ans, comme ça, il est le Rambam Pshat. Mais, dans la Gemara avant qu'on aurait fait. Mais maintenant, à la fin, on va quand même mourir. À l'époque de Mashiach, les gens, ils mourront comme un vieux, mais ils mourront comme un. Mais qu'est-ce qui se passe pour la triatamitim? Quand il y aura triatamitim, l'homme qui est sorti de la tombe triatamitim, est-ce que lui va mourir une deuxième fois? Alors, Tana de Beliaou, Tzadikim, Shatid, Akadosh Baruch Hu, Lachiyotan, c'est Tzadikim que Dieu va les faire vivre, Einam Chozrim la Afaran. Eh bien, ils ne vont plus mourir, ils ne vont plus devenir de la terre, ils vivront éternel. Je n'ai marre, Vaya Hanishar Betzion, ceux qui restent à Tzion, Vanotar Birushalayim, Kadoshi Emerlo, Kol Hakatuv, Lechaim Birushalayim. Kadosh Ya'emerlo, il est quelque chose comme divin, c'est une façon de parler, c'est comme s'il est divin. Qui, Kol HaKatuv, le Chaim Yerushalayim, tout qui est inscrit pour vivre à Yerushalayim. Ça veut dire ceux qui à Yerushalayim, on avait déjà dit Triatemitim, c'est Yerushalayim. Ceux qui vont être Zoché Triatemitim, eh bien, il vivra éternellement. Ma Kadosh Lo'olam Kayam, Kadosh Ya Kadosh Baruch Hu, comme Kadosh, il vit éternel. Afem le olam kayamim. Comme ça, triatemitim aussi, c'est éternel. Vim tomar. Maintenant, si tu vas poser une kushia. Otan shanim, ces années, facile à dire ça, les mille années, shatid akadosh baruch hu l'chadesh ben et olamo, pendant qu'akadosh baruch hu, il va renouveler le monde. Il y aura un renouvellement, comme une maison quand elle est vieille, on fait une rénovation. Eh bien, Dieu, il a créé le monde pour 7000 ans. On avait déjà parlé de ça, les 7 jours de la création, qui, après, il y aura une rénovation. Cette rénovation va durer 1000 ans. Comment c'est la rénovation? On ne sait pas. Un secret. Un secret, et c'est hors catégorie. Il y aura une rénovation qui va durer un certain temps. Après un pshat, ça va durer 1000 ans. Im Tomar, si tu vas dire, Otan Shanim, pendant ces années que Dieu va faire une rénovation du monde, je n'aime pas comme le texte il dit, Venizga Vashem Lavado Bayom Haru, Dieu, Nizga, il va être seul, Bayom Haru, ce jour, le jour de la rénovation, c'est que seul qui est sur la terre, Kaviachol, Yom Haru, ce jour, après un pshat, un jour, pour Hachem, c'est-à-dire 1000 ans. Tzadikim ma'enosin. Qu'est-ce que les tzadikim font pendant ce 1000 ans si on n'est pas sur terre? Parce qu'il y a la rénovation. Quand on a une rénovation de la maison, normalement, on sort de la maison. Il arrive des ouvriers, ils cassent le parterre, les murs, on fait peinture, un nouveau toit, etc. Donc, un jour, il va tout renouveler. Où on va être? Il faut sortir. Mais on ne va pas mourir. Parce que tu dis, pour la résurrection des morts, pour la résurrection des morts, on ne mourra pas. Alors, comment ça va être? Mourir, on ne peut pas, mais rester pendant la rénovation dans la maison, sur la terre, comment? Alors, on dit, Akadosh Baruch Hu selem knafayim kansharim. Dieu leur fait comme des ailes, knafayim, des ailes kansharim, comme des aigles, veshatim al pnei hamayim, et ils vont nager sur l'eau. Je n'ai marre, comme le texte, il dit, Alken lo nira Bahamir Aretz. Nous n'avons pas peur, Bahamir Aretz, quand il y aura un changement de la terre. Bemot Harim, quand les montagnes vont s'écrouler, Belev Yamim, dans le cœur des mers. Il y a une révolution, les montagnes vont tomber, et toute la terre, tout va changer. Nous n'avons pas peur de ça. Nous avons des ailes avec lesquelles on va voler. Bien sûr, ce sont des images. Et pas apprendre à la lettre. Tout ça, ce sont des images que Dieu va faire. Il va s'occuper d'une sorte que nous ne savons pas. Ce sont des allusions que nous ne savons pas à quoi ça correspond. Peut-être on sait vie, mais moi, je ne sais pas. Veshem Otomar, peut-être tu vas imaginer Yeshlem Tsar, ces tzadikim, ça leur fait mal. Ils souffrent du fait qu'ils doivent être dans ces conditions. Talmud Lomar, c'est pas ce qu'il dit, non. Kove Hashem, Yachalif ou Koach. Kove Hashem, les gens qui ont l'espoir en Dieu, Yachalif ou Koach. Ça va tout le temps renouveler, leur force va renouveler. Yalu ever kanesharim. Ils vont monter ever avec des ailes kanesharim comme ils montent les nez sur l'aigle. Yarutsu, ils vont courir. Velo yigao, sans se fatiguer. Yelchu, ils marcheront. Velo yafu, ils vont pas se fatiguer. Tout ça, c'est un pasuk en Yeshaya. D'accord. Alors, la Gemara pose la question. La Gemara demande, mais toutes ces preuves, toutes ces discussions vis-à-vis de Triatamitim, où il est marqué dans la Tanakh Triatamitim? On cherche un pasuk 2, on a déjà vu une dizaine de preuves. Mais tout ça, mais on peut les apprendre, le Triatamitim, Mimeitim Shechaya Yecheskel, les morts que Yecheskel a fait revivre, ça veut dire quoi? Il y a un chapitre dans le Nord, il y a le Yecheskel. Le prophète raconte qu'Akadosh Baruch Hu l'a amené dans une vallée, son corps ou son esprit, je ne sais pas comment, Hashem le conduit à un endroit et il dit, qu'est-ce que tu vois, Yecheskel? Il a vu une vallée pleine des eaux, des milliers des eaux. Alors, Hashem, il demande à Yecheskel, qu'est-ce que tu en penses? Ces eaux complètement secs, tu penses qu'ils peuvent revivre? Et après ce qu'il a dit, c'est toi Dieu qui sais. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit, je vais te montrer qu'est-ce qu'il se passe. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit quelque chose, il a amené un esprit et les eaux, ils se sont attachés un autour de l'autre avec un immense bruit. Tout, c'était un chamboulement fantastique. Et les os, la tête, les pieds, ils se sont reconstitués. Et après, ça commence à pousser de la chair autour, et des guidim, et le sang, et la forme, et la peau. Et à la fin, ils se sont levés, et ils ont reçu une neshama, ils étaient vivants. Et Yecheskel est là, il a observé toute cette scène. Donc, ce chapitre, il est marqué dans Yecheskel. Alors, Kadosh Baruch Hu, il dit, tu vois ça? Eh bien, maintenant tu as vu que je vais Triatamitim. Alors, Gmaral demande, pourquoi on discute si il y a Triatamitim? Mais voilà, Yecheskel, il a vu comment on a fait, comment Hashem il a fait Triatamitim. Alors, Gmaral nous répond, ça va la commande Amar, Bemet Mashal Haya. Tout ce qu'il disait, qui me dit, ça n'existe pas Triatamitim? Les gens qui remettaient en question le Triatamitim, ils ont vu ces psukim, eux ils disaient non, Bemet, la vérité, elle est Mashal Haya, ça c'est une allégorie, c'est une image, c'est pas vrai. Le Tanya, alors on avait vu, Rabbi Elazar Omer, Rabbi Elazar il dit, Meitim Shech Yecheskel est mort, que Yecheskel il a fait Triatamitim, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu il a fait, Yecheskel a participé. Amdu al Raglehem, ils se sont mis sur les pieds, Amrou Shira, et ils ont chanté la gloire de Dieu, Vametu, après son mort. Ma Shira Amrou, quelle chanson il disait? Hashem Memit Betzedek, Dieu et tue les gens avec justice, ou Mechaye Berachamim, et après Fetre Temitim Berachamim, qu'on a vu hier, Mechaye Metim Berachamim Rabim. La mort est juste, méritée. La revivre, pas toujours par la loi, vraiment, peut-être on ne le mérite pas, mais par la pitié de Dieu, on le mérite, on le reçoit. Rabbi Shua Omer, Shirazu Amru, c'est une autre chanson, il disait. Hashem Memitum Chaye, Morit Sha'al Vaya'al. C'est de la Chana, il a dit ça, le prophète Eschana. Hashem Memit, Dieu est tu, Um Chaye fait revivre après. Morit Sha'al, il fait descendre dans la tombe. Vaya'al, il fait remonter. Donc, nous avons ici Rabbi Eliezer et nous avons ici Rabbi Yeshua jusqu'à maintenant. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, il dit, Emet, Mashal Haya, c'est vrai, c'est une allégorie. C'est une vérité, c'est une allégorie. Amar alors Rabbi Nechemia, Rabbi Nechemia, il dit, je ne comprends pas très bien, qu'est-ce que tu dis? Im Emet, Lama Mashal, si c'est vrai, pourquoi tu dis c'est une allégorie? Vimachal, si c'est une allégorie, lama emet, comment tu peux dire c'est une vraie histoire? Et là, be emet, machal haya, Je vous dis la vérité, elle est que c'est une allégorie. D'accord. Ah, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Mais en tout cas, Rabbi Yehuda, il dit la vérité, je vous dis la vérité, c'est une image. C'est une allégorie, ça ne se passait pas dans le réel. Donc, tous les gens qui mettent en question et disent où c'est marqué dans la Tanakh, cette histoire, laisse tomber. Il y a un avis de Rabbi Yehuda qui dit qu'il s'agit d'une allégorie, pas d'une réelle histoire, donc nous n'avons pas de preuve. C'est pour ça qu'on cherche. Il disait, apportez-moi une autre preuve. Rabbi Eliezer ben Shel Rabbi Yossi Glili Omer. Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Yossi Glili, lui était spécial. Dans le Tanaïm, on va dans tous les chasses, Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Yossi Glili, malgré que c'était un grand chacham, Rabbi Yossi, il avait 5 enfants Tanaïm, 5 enfants d'Egdolim, 5 enfants Tanaïm. Hein, il s'appelait Rabbi Eliezer. Et Rabbi Eliezer n'était pas seulement un Tana dans la Halakha, mais c'était peut-être le plus grand spécialiste dans la Haggadah. Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Yossi Glili, il était grand dans la Haggadah, celui qui a dit tous les Lamed Bet Midot, Shahagada Nidreshet Bahemle. Et Agadot, il y a des Klalim, comme on déduit des Drashot dans le Chumash, hein, un pasuk dans le Chumash, un mot, un Vav en plus, un mot en plus. Il y a un Drashah dedans, tous les Halachot, ils sont Moromazim dans les Drashot. Alors, il y a des règles de jeu, comme on déduit une Halacha d'un pasuk. Maintenant, il y a dans la Agada aussi des choses, mais les règles sont différentes. Et dans tout ce qui est Agada, qui n'est pas halachique, il y a d'autres règles. Et il y a Lamed Bet Midot, 32 façons, comment on déduit une drasha dans le psukim qui concerne la Agada. Et le grand spécialiste, c'est Rabbi Eliezer ben Shel Rabbi Yossi Glili. Qu'est-ce que lui, il dit? Meitim Shechaya Yecheskel Alu L'Eretz Israël. Les gens qui avaient les Triat Amitim, c'est pas comme Rabbi Yehuda il dit, c'est une image, c'est une allégorie. Non, ces gens-là, Alu L'Eretz Israël, ils ont vraiment vécu et ils sont montés en Eretz Israël. Venasu Nashim, ils se sont mariés. Volido Banim Ubanot, ils ont eu des garçons et des filles. C'est-à-dire, ils avaient maintenant l'appareil de reproduction. Ce n'est pas des zombies ou des E.T. et des extraterrestres et des je ne sais pas quoi. Non, c'était des gens en chair et en sang normal. Ils se sont mariés, ils ont eu des enfants. Voilà la vraie histoire. Comme ça, il dit Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Yossi Glili. Amad Rabbi Yehuda ben Pteir al Raglaf. Rabbi Yehuda ben Pteir, il se levait sur ses pieds. Va Amar. Ça veut dire quoi? Il se levait sur ses pieds. Je fais une déclaration solennelle. C'est pas je suis assis et je dis, je me mets debout, ça veut dire je vous jure, ça veut dire j'ai une déclaration fracassante à transmettre ici. Quelque chose, je me lève, je dois dire quelque chose, je ne peux pas rester assis en disant ça. Je vous fais un témoignage, un témoin, il se lève quand il est devant le tribunal. Je me considère comme si je suis devant le tribunal de l'humanité et je fais un témoignage fracassant. Bamar, il a dit, Ani, Mibnei, Benehem. Moi, je suis un descendant de ces gens-là. Mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, notre famille descend parmi une de ces personnes. Et après, qu'il a fait Triatemitim. Donc, s'il vous plaît, vous arrêtez de raconter que quoi? Que c'est un machal, c'est une allégorie. Moi, je ne suis pas une allégorie. Moi, je suis un homme et en chair et en sang. Et mon père et mon arrière-grand-père, nous sommes de ces gens. Bahalalu tfilin, finiachli avi abba mehem. Et il a montré cette tfilin sur la tête. Vous savez d'où j'ai cette tfilin? Je ne les ai pas achetées au magasin. Je l'ai reçue de mon père. Et mon père l'a reçue de son père. Qu'il a reçue de son père. Qu'il a reçue de son père à travers ces gens-là. Entre l'histoire d'Yecheskel et son parent parmi ces gens-là. Voilà. Uman hinu meitim shechaya Yecheskel. Qui sont ces gens-là que Yecheskel a fait revivre? Qui sont ces gens-là? Ils étaient morts. Ils étaient jetés. Ils étaient morts, ils étaient jetés. Qui étaient ces gens-là? Alors, Amarav, selon Rav, Elou bnei Ephraim, c'était les gens d'Ephraim, de la tribu d'Ephraim. Shemanu leketz. Ils ont compté la fin des 400 ans que les Juifs devraient être dans un pays qui leur appartient, pas. Vetaou, ils se trompaient dans le compte. Shenemar, car le texte, il dit, Ubne Ephraim, Shutelach, Ubered, Beno, Bnei Ephraim. Là-bas, dans le livre d'Ivre Yamim, on compte les personnes. Une minute, où c'est? Je ne vois pas ici. Ah voilà, ici. Ubne Ephraim, les enfants d'Ephraim. Ephraim est le fils de Yosef. Shutelach. Un monsieur s'appelait Shutelach. Ubered Beno. Il a un fils Beret. Vetachat Beno. Un fils de Beret, c'était Tachat. Ve Elada Beno. Son fils était Elada. Vetachat Beno. Vezavat Beno. Veshutelach Beno. Ve Ezer. Ve Elad. Ve Haragum Anche Bagat. Ils se sont fait tuer par les hommes de Gat. Hanon Ladim Baharetz qui était né dans la terre. Qui Yardo. La Kachat et Miknem. Parce qu'ils sont venus prendre leur troupeau. Qu'est-ce que c'est comme histoire? Alors, la Gemara explique comme ça. Ta shema nu laketz. Ça veut dire quoi, manu laketz? Akadosh Baruch Hu dit Avraham Avinu, ta descendance sera dans un pays qui ne leur appartient pas, arba meot shana. Va'avadum, vino otam arba meot shana. Vegam et ha goy asher yavudu dan anochi, v'acherei chen yetzu v'rechush gadol. Va'ata tavou etech b'shalom, v'stikaveh b'seiva tova. D'accord. Donc, Avraham Avinu, ta descendance sera dans un autre pays et ça durera 400 ans et après, ils vont sortir. Ça veut dire les Juifs vont être en Égypte, entre autres en Égypte, 400 ans. Très bien, après, ils vont sortir. Maintenant, les 400 ans commencent à partir de quel moment? Rashi fait le calcul, la Gemara fait le calcul à partir de la naissance de Yitzhak Avinu. Ta descendance, quelle est la descendance d'Abraham? Le premier descendant, c'est Yitzhak. Donc, dès que ta descendance est née, Yitzhak, on va commencer les calculs des 400 ans. Une partie de ce temps, les Juifs, ils vont être dans un pays qui part à eux. Pas à eux, parce que même Eretz Canaan à l'époque n'appartenait pas encore à Abraham. C'était promis donné plus tard à leur descendance. Et à l'époque, Abraham était encore un étranger. Donc, depuis la naissance d'Yitzhak jusqu'à la sortie d'Égypte, 400 ans. Très bien. Mais ça a été dit à Abraham, Bebrit ben Abetarim. Pendant qu'il a dormi, il a brûlé Ben Abtarim, qui était, bon, Abraham, il avait 70 ans, 30 années plus tôt. Abraham, il a fait deux voyages en Eretz Canaan. Un voyage à 70 ans, et là, il avait brûlé Ben Abtarim. Après, il est revenu, il est resté encore 7 années à Haran, et quand elle avait 75 ans, il est parti une deuxième fois avec Lot, avec Sarah, avec tous les gens de Haran. Et là, le grand voyage que la Torah a entendu par cette Lech Lecha, il a fait un voyage avec tout le monde. Il est venu en Eretz Israël, après il est parti en Égypte, après il est revenu d'Égypte. Mais ce qui est marqué après dans la Torah, Ben Abtarim, ça se passait 5 années avant où Abraham il était seul. Où Abraham il a fait un voyage seul avec l'autre. Là, il avait le Brit Ben Abtarim. Et donc, c'était 30 années avant. Donc, les gens d'Ephraïm, ils ont dit, quand va venir la délivrance? 400 ans. À partir de quel moment? Ils ont dit à partir de la promesse qu'Hachem a donnée à Abraham. Donc, 30 années avant que Moshe Rabbeinu est venu chez les Juifs, ils ont dit, ça y est, les 400 ans sont terminés et nous montons, on sort d'Égypte. Donc, ils se sont mobilisés. Le texte là-bas dans l'Ivraïm, il dit, les Bnei Ephraim, ils étaient très nombreux, 500 000 personnes. 500 000 personnes. Et tous les Juifs après, ils n'étaient que 600 000. Comment eux, ils étaient 500 000? Parce qu'il y avait les 4/5 aussi avec eux. Et les Juifs 4/5 sont morts. La majorité de la tribu d'Ephraïm, 500 hommes, 500 000 hommes sont sortis. Et voulaient conquérir Israël et se sont fait tuer les pauvres. Ce n'était pas le moment qu'il fallait sortir. Donc, Rav, il dit, Elou bnei Ephraim, ce sont les gens d'Ephraim, Shemanu leket, ils ont compté la fin des 400 ans, Betao, ils se sont trompés. Shenemar bnei Ephraim, Shutel, Rubar, Adbeno, Betach, Adbeno, Velad, Adbeno, Tachamanu, Bizev, Adbeno, Veshutel, Adbeno, Veezer, Velad, Varagum, Anchigat, ils se sont fait tuer par les gens de Gat, Anonadim, Baaretz. Vaitabel, le texte dit, Vaitabel, Ephraim, Aviem, Yamim, Rabim. Ephraim, leur père, a été très triste. Il a pleuré sur eux beaucoup de temps. Vayavo et Chav le Nachamo. Et ses frères, ils sont venus, les frères d'Ephraim, c'est-à-dire Menaché. Il y avait encore d'autres frères, parce que Yosef, il avait encore d'autres enfants. Ils ne sont pas comptés comme des tribus, Makar Chumash. Ephraim, Menaché, Kourou, Mishimon, Yuli, Umolatra, Shaolat, Acharem, Lachayu, Alchem, Achem, Yikarou, Benachanatam. Les autres enfants, de Yosef, ils vont être ou comptés sur Menaché ou sur comptés sur Ephraim. Alors donc, ces gens-là, ils étaient morts et leurs os sont restés pendant combien de temps? Depuis 30 années avant la sortie d'Égypte jusqu'à l'époque d'Yéhézkel, ça veut dire pendant l'exil de Babel. Donc, depuis que les Juifs sont rentrés en Eretz Israël, jusqu'à à la sortie, et ça durait 450 ans. Donc, ça fait 900 ans et encore 30 ans. Donc, plus que 900 ans, ces os sont restés là-bas. Et après, ils étaient zochés triat amitim. Alors, Shmuel Amar, Shmuel il a dit, Eilu bnei Adam shekafru betriat amitim. Qui sont ces gens-là sur qui Yeheskel a fait Triat Amitim? Ce sont des hommes qui ont nié Triat Amitim. Ils ont nié, ils ne croyaient pas Triat Amitim, c'est-à-dire les Juifs qui ont vécu en Eretz Israël à l'époque du premier Beit HaMikdash, mais ils ont nié la Triat Amitim. Chez Nehemar, d'où on sait, parce que le texte il dit, Voyomar Elai, Dieu m'a dit, comme ça Yeheskel raconte, Ben Adam, fils de l'homme, toujours Yeheskel, il s'appelle fils de l'homme. Akadosh Baruch Hu, quand il s'adresse à Yeheskel, il appelle, il le titule toujours Ben Adam. Atzamot ha'eile, ses os, kol bet Israel hema, ça représente les Juifs. Hine omrim, voici, il y a beaucoup de Juifs qui disent, yavsha, yavshu atzmotenu, nos os sont séchés. Va'avda tikvatenu, notre espoir, est perdu. Nixar nolano, nous sommes foutus. Et donc, pour encourager les Juifs, pour que les Juifs arrêtent déjà de pleurnicher, il n'y a plus d'espoir, il leur a fait le Triat Amitim. C'est pour donner du moussard au peuple juif. Ça veut dire quoi? En vérité, c'est des gens qui ne méritaient pas Triat Amitim. On a vu au début du Pérec, ceux qui croient pas Triat Amitim, ils n'auront pas Triat Amitim. Ces gens-là, sur lesquels Yeheskel a fait Triat Amitim, ils n'y croyaient pas. Donc, ils ne le méritaient pas. Et pourtant, Hachem leur a fait Triat Amitim. Pas parce qu'eux, ils le méritaient. C'est pour que les autres Juifs voient clairement qu'il y a 8 Triat Amitim. Pour qu'ils retrouvent la Emouna, on leur a donné Triat Amitim. Alors, c'est pour un moussard pour les autres Juifs. C'est-à-dire, on voit ici dans cette Gemara, on va voir cette Gemara de Yeheskel, on voit ça. Les Juifs qui ont vécu le Chorban du premier Beit HaMikdash, ils sont partis en exil, c'était un choc que nous ne pouvons pas nous imaginer de quoi il s'agit. Pour nous, l'exil, ça fait 2000 ans qu'on est en exil, pour nous, c'est comme une condition normale. Un juif, il est en France, il est en Angleterre, en Russie, un antisémite ne veut pas, on parle mal de nous. Ça y est, ça fait 2000 ans qu'on vit comme ça, pas Khedush. Entendre dans la rue, sale juif, vous n'êtes pas bienvenus chez nous. Ça y est, c'est nos parents, nos grands-parents, on a vécu tout ça. On le connaît. Ça ne nous choque plus. Mais les juifs, ils ont vécu 450 ans en Eretz Israël, après Matan Torah, après d'avoir gagné les guerres avec Yeshua Ben Nun, après David Amelech, et avoir un immense empire, et avec des rois qui régnaient dans le monde entier. Shlomo Melech régnait dans le monde entier. Shlomo Melech était plus respecté que l'Amérique et la Russie ensemble. avec du kavod, avec de la richesse. Et après même, Achav, le grand pêcheur, il régnait, était un dictateur sur tout le Proche-Orient. Les Juifs, ils avaient vécu des choses extraordinaires. Le Beth Amikdash détruit, puis s'écroule, jeté en exil, ça leur a fait un choc terrible. Au point, ils ont dit, c'est foutu, désespéré. Yecheskel, il luttait avec eux, disait, faites teshuva, ça ne sert à rien, on ne peut pas faire teshuva, Dieu n'accepte pas jamais la teshuva, on est foutu à jamais. Et Yecheskel leur a fait la guerre. Non, Dieu veut lui qu'il fasse teshuva et vous allez vous aider dans 70 années, vous allez retourner, etc. Alors donc, il y avait une partie des Juifs qui a dit qu'il n'y a plus d'espoir, il laissait tomber tout courage. Et c'est pour ça qu'il y avait un triat amitim. Non, vous voyez ces gens-là, triat amitim, oui. Eh bien, tous les Juifs, sachez, vous allez vivre aussi un triat amitim. Comme ça, vous allez retourner en Israël. Ça sera reconstruit le deuxième Beth Amikdash. Le peuple juif va de nouveau vivre avec splendeur. C'est pour ça que Hachem leur a fait le triat amitim. Rabbi Yirmiyahu bar Abba Amar, Eilu bnei Adam, tu sais sur qui il y avait triat amitim? Ce sont des hommes. Ils n'avaient aucune humidité de mitzvah. Rien, rien. Vraiment des voyous complets. L'achluchit shel mitzvah, ça veut dire, tu as un morceau de bois, il est frais. Et après, quand tu l'as arraché de l'arbre, avec, il sèche. À la fin, il se casse, il n'a plus d'humidité dedans. Ou quand on a une pomme, il a de l'humidité, il est fraîche. Et quand il sèche, l'humidité est partie, c'est plus rien. Il y a des mitzvot. Un homme, il fait des mitzvot. Il y a une fraîcheur de mitzvot. Mais ces gens-là, il n'y a pas de lachluchit shel mitzvah. Je n'ai marre, ha'atzamot, ha'yevishot, shimu dvar Hashem. Ça, les eaux, dans ce chapitre, on parle, c'est les eaux, ha'yevishot, ils sont secs, shimu dvar Hashem. Écoutez la parole de Dieu. Donc, c'était des rechaim gmurim. Et sur ces gens-là, Akadosh Baruch Hu, il a fait triat amitim pour donner un siman qu'il y a encore un espoir pour les Juifs. Pour eux, je ne sais pas, mais pour les Juifs. Rabbi Yitzhak Nafra Amar, Elo Bnei Adam, tu sais de qui il s'agit, ce sont des hommes, Shechipu et Aichal Kulo, Shkatsim Veremassim. Ils ont dessiné les murs du Beth Amikdash avec des animaux impurs. À l'époque du premier Beth Mikdash, on verra ça encore plus tard. Et pour comprendre ce qui s'est passé à l'époque du premier Beth Mikdash, c'est très spécial. Ils avaient Yetzara que nous n'avons pas. La Yetzara de Avodazara. Se prosterner devant une Avodazara. C'était un Yetzara de folie. Nous n'avons pas ce Yetzara parce que les Anshei Knesset Agdola, quand ils ont construit le deuxième Beth Mikdash, ils ont prié Dieu. Enlève-nous les Yetzara de Bodhazara. On ne peut pas tenir. Et Akriboch, il a écouté, et les Yetzara, ils sont enlevés. Ils sont enlevés des Juifs et partiellement des Goïms aussi. C'est au même moment qu'un Jeknes, ils ont prié. Alors là, les philosophes grecs, les Socrates et les Aristo et compagnie, ils se sont moqués de tout à Bodhazara du monde. Ils ont créé chez les Goïms la cassure de croyance en Bodhazara. Ça, ça venait aussi par les Drachot de Yeshaya, des Yirmia, des Cheskel. Et de Anshei Knesset Gedola qu'ils ont annulé les Yetzara d'Avodazara. En tout cas, à l'époque du premier Mikdash, il y avait un Yetzara de folie d'Avodazara. Les Juifs, ils étaient obsédés par ce culte. Comment on peut comprendre ça? Peut-être après, on verra ça. En tout cas, quand ils ont fait Avodazara, ils ont transformé le Beth Amikdash en maison d'Avodazara. Les rois qui étaient Rechaïm, il y avait des rois de Tzadikim, il y avait des Rechaïm. Ça montait, ça descendait. Tout le temps, les deux, trois rois comme ça, deux, trois rois comme ça. Alors, ceux qui faisaient Avodazara, ils ne l'ont pas fait dans une autre maison, mais dans le Beth Amikdash lui-même, parfois. Ils ont dessiné sur les murs des animaux. On se prosterne devant ces animaux. Mais quel genre d'animaux? Pas seulement des animaux cachers, des animaux pas cachers. Le texte dit, Kripou, ils ont couvert, et à Heichal, le Heichal, c'est quoi le Heichal? Là où il y a la menorah, là où il y a le Shulchan, là où il y a le Mizbeach HaKtoret, devant la Kodesh et Kodeshim, ils ont couvert Shkatsim Veramassim. Ils ont mis des Shkatsim, ils ont dessiné des limaces, et des crabes, et des araignées, tous les Shkatsim Veramassim, ils ont dessiné et ils se sont prosternés devant. À quoi ça sert? Mais c'est une folie, une rébellion. Vous voulez se débarrasser de la religion. Je n'ai pas encore le texte, il dit, va avoir, va errer. Je suis venu et j'ai vu. Comme ça, le prophète raconte, vihine kol tavnit, remes, ubeheima, sheketz, bechol gilou le bet Israël, mechuka la kir saviv. J'ai vu, Heskel, il a vu dans un image, le Ruach HaKodesh, marqué le texte que Bouch, il a pris la neshama de Heskel, il a amené Yerushalayim, il a pu regarder par la fenêtre, qu'est-ce qu'il se passe dans la Hichal. J'ai vu Kol Tavnit, tous les images de Remes, de ceux qui rompent par terre, au Behema, Shekezechol, Gilou, Bet Israël, toutes les Avodezara, Mechouka, Lakir, tout était gravé sur le mur, ça vive. Partout. Donc ces gens-là, c'était le pire des gens. C'est ces gens-là pour lesquels Akadosh il a fait triet amitim. Rabbi Yochanan Amar, Eilu metim shebikat dura. Non. En vérité, les gens sur lesquels il reste qu'il fait triet amitim, c'est pas ces gens-là. C'est d'autres personnes. Et l'Ometim, c'est des gens qui étaient morts, Bebikat Dura, dans la vallée de Dura. Il y a quelque part une vallée de Dura. Et ceux qui sont morts là-bas, c'était ces gens-là. Rabbi Yochanan, il a raconté, Minahar Eshel Adrabat, il y a quelque part, je ne sais pas, je ne connais pas la géographie du Proche-Orient, à quoi la Gemara fait allusion. Il y a quelque part un fleuve qui s'appelle le fleuve des Eshel. Et il y a une ville, Rabat. Depuis le fleuve Eshel, Ad Rabat, jusqu'à cet endroit s'appelle Rabat, Bikat Dura. Là-bas, c'est la vallée de Dura. Chez Beshah, chez Higla Nebuchadnezzar, Achaït Israël, au moment que Nebuchadnezzar il a fait exiler les Juifs, Hayoub Hen Bachurim, il y avait des jeunes hommes, Shoum et Ganin et Tachama Beyofian, qui faisaient honte au soleil par leur beauté. Bon, c'est une façon de parler. Ils étaient beaux d'une folie, super beaux, plus beaux que le soleil. Bayou Kasdiot Rototan, les femmes babyloniennes, elles ont vu ces garçons juifs qui viennent de Yerushalayim, le Shofot Zavot, elles sont tombées malades, elles ont eu une maladie de Ziva, la Ta'ava, le désir est monté, elles sont devenues folles et sont malades. Amrou le Baalehem, les femmes racontaient ça à leur mari. Je suis tombé amoureux dans ces gens-là. Ou Baalehem le Melech. Leur mari est venu chez le roi, il a dit, c'est de la folie, ils sont trop beaux ces gens-là. Tiba Melech, Mahagoum. Donc le roi, il a dit, il faut les tuer afin pour que les femmes babyloniennes retrouvent la sérénité. Vadaïna Yeshofot Zavot. Mais même quand ils étaient morts, la beauté restait sur le visage. Et ça ne servait pas, la maladie continuait. Tiba Melech Veramsum. Alors, le roi, il a demandé de déformer leur visage pour qu'on ne les voit pas. En tout cas, ces gens-là, c'est sur ces gens-là qui étaient dans la Bikadura sur laquelle Yeheskel l'a fait. Bon, on va continuer, Hashem, demain à 5 heures.